Bon ben, on va commencer. Bonjour à tous. Je commence par faire l'appel. Donc Isabelle Touzard présente, Alain Valabiala, Laurence Rousseau, présent. Serge Boulet,
présent.
Claudine Moyan a donné pouvoir à Laurent Maillot, Denis Pierre,
présent.
Mylène Julliet, absente. Laurent Maillot,
présent.
Anne Jiménez, absente. Elle a donné un pouvoir.
Et à moi.
Ah, donner un pouvoir à Laurent Moulin. Laurent Moulin.
Présent.
Françoise Hazard.
Présente.
Romain Deloustal.
Présent.
Béatrice Tayoni-Closter a donné pouvoir à Laurence Rousseau. Jean-Paul Massat a donné pouvoir à Isabelle Touzard. Béatrice Poncic a donné pouvoir à Françoise Hazard. Johan Servigna est absent. Cécile Corsinos est absente. François Dessy.
Présent.
Gilles Chicot.
Présent.
Donc, sur le pot de Sambon, nous sommes 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Donc, on peut valablement délibérer. Le quorum est atteint. Je vous fais passer pour les signatures. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations sur l'ordre du jour? On aura des points hein, d'information et peut-être un peu de débat sur les affaires à la fin du conseil. Ah, il y a une... Pardon, excusez-moi. On va vous faire une proposition de modification. C'est une délibération, un peu minute, qu'on vous propose de faire par rapport à une décision modificative en investissement.
Enfin, alors, oui, tout à fait.
Qui va vous permettre
des mouvements de débit-crédit sur deux chapitres au niveau des investissements.
Est-ce que vous êtes d'accord? On ne va pas le faire maintenant, mais est-ce que vous êtes d'accord pour l'ajouter à l'ordre du jour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, moyennant l'addition de cette affaire relative à une décision modificative numéro 1, la première de l'année, budget investissement, donc on va traiter à la fin, en sixième point. L'ordre du jour est donc adopté. Secrétaire de séance, qui veut bien le faire ce soir? Laurent Maillot, merci. Le compte-rendu de la séance du 11 mai 2017. Ça remonte au 11 mai déjà. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu?
Non.
Si on n'a pas, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Donc on passe tout de suite à la première affaire qui est une demande de subvention au conseil départemental au titre du programme FAIC.
Alors comme chaque année, on fait des demandes pour bénéficier de subventions pour des projets d'investissement qui sont liés à la rénovation du patrimoine. Alors juste pour info, j'ai vu que l'année dernière, on avait fait une demande de 12 000 euros pour différents travaux, notamment à la crèche, des remplacements de chaudières, des panneaux acoustiques de la cantine, et on a reçu 9 600 euros sur nos demandes, donc ce qui était déjà très bien. Donc là, cette fois-ci, on demande 19 000 euros pour des rénovations de rideaux de fer pour le local du bar, pour des rénovations de plomberie pour le local du bar, pour la mise en sécurité du tableau électrique, pareil pour le local du bar, pour une mise en conformité de l'armoire électrique pour l'église paroissiale, pour l'aménagement des allées du cimetière, pour la fabrication et l'installation de vitres pour exposer des objets de culte, notamment des chasubles pour l'église, et l'aménagement d'une cuisine pour le personnel à la mairie. Donc le montant total des travaux est de 19 088,59 euros en hors-taxe. Donc on fait cette demande très rapidement, on va présenter des objets, donc voilà, des devis, pardon.
Là, on a rassemblé, comme l'année dernière, l'ensemble des dépenses qui nous semblent éligibles à ces subventions du département pour l'année, qui sont un peu en dehors des projets plus importants, plus phares. On va chercher des subventions spécifiques. L'idée étant toujours d'essayer d'avoir un maximum de recettes et donc de pouvoir en faire plus avec moins. Est-ce qu'il y a des observations sur cette demande? Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le point est adopté à l'unanimité. On passe maintenant, je crois que c'est Alain qui présente ça, à l'approbation d'une convention avec la métropole pour la mise à disposition de services pour l'utilisation de la plateforme e-service.
Donc,
c'est une, un projet de convention qui est proposé par la métropole. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme e-service qui constitue à offrir pour les c'est pour la destination des citoyens, des administrés de la, des 31 communes de la métropole, de leur offrir un service qui leur permet de servir d'Internet, qui leur permet de demander dans leur commune un certain nombre de papiers, de formalités administratives. C'est une, ça ne change rien par rapport à la demande de se déplacer à la mairie. Simplement, ça se fait de chez soi, c'est donc ça facilite les contacts. En plus, le citoyen bénéficiera d'un point d'entrée unique pour tous ses formulaires et il sera replacé au centre du service, puisqu'il pourra avoir accès par le biais de cette plateforme au suivi de sa demande. C'est-à-dire que lorsqu'il fera une demande, lorsqu'elle sera enregistrée sur le site de la commune, après ça, il y aura donc le citoyen verra une commune quand elle est enregistrée, il aura une information quand le fichier sera ouvert, quand il sera traité, quand il sera envoyé, donc il pourra suivre sa demande tout au long de son processus. Ça doit permettre aussi, en interne, de simplifier nos processus. Il serait demandé effectivement de bien analyser et de bien voir la chaîne de processus et donc de voir s'il n'y a pas des doublons ou des choses qui peuvent être supprimées ou simplifiées. Et puis c'est aussi offrir un service à toutes les communes de la métropole en mutualisant des coûts, c'est-à-dire qu'il y a un seul organisme qui traite pour toutes les communes de la métropole. Aujourd'hui, vous avez ici des communes sur lesquelles vous avez, quand vous avez un petit accent en rouge sur lequel, c'est que cette base fonctionne. Il y a 18 communes qui sont, 20 communes, 18 communes qui sont en production, c'est-à-dire lesquelles les citoyens peuvent interroger par site web leur commune pour avoir les formulaires après. Vous avez deux communes qui sont dans le projet et qui sont en train de réfléchir, et puis vous avez des communes qui ne sont pas colorées, sur lesquelles il y a, pour l'instant, on démarre cette démarche. Cette démarche, elle vise, par exemple, à titre d'exemple, l'état civil, en faisant des copies d'actes de mariage, par exemple, des copies d'actes de naissance, la vie et une demande de stationnement pour un déménagement, une demande de rendez-vous avec un ami, le paiement des restaurants, scolaires, la réservation de mobilier, etc. Donc tout ça, ce sont des démarches qui peuvent être mises en place. Là, la métropole propose d'abord 10 formulaires, ceux qui ne sont pas colorés en vert, qui sont des formulaires de base, qu'on trouvera dans toutes les communes, plus un certain nombre de formulaires à la demande. Il y a chaque commune peut demander d'avoir des formulaires supplémentaires. Et ces formulaires supplémentaires sont, sur leur conception, sont traités au niveau d'une commune, mais une fois que c'est achevé, c'est rebasculé dans la base au profit des 31 communes de la métropole. Par exemple, le premier, pour l'emploi de nature spontanée, ça n'avait pas été du tout traité en fond de tâche par la métropole. Il y a une commune qui l'a demandé à faire un formulaire pour recueillir et gérer ses demandes d'emploi spontanées, et c'était réintégré après dans toutes les communes, comme les demandes de documents touristiques ou l'inscription des hébergements touristiques. Donc voilà, donc tout ce qui va être intégré dans cette base, c'est par exemple une demande d'enlèvement de tag d'affiche sauvage. Un citoyen qui voit, un ministre qui voit dans une commune un tag, une affiche sauvage, il fait cette demande-là, c'est par le site web, il s'inscrit, remplit un formulaire très simple, il peut, ça arrive à la mairie, qui renseigne et accuse réception de cette demande, qu'il traite, et on peut avoir à chaque instant le niveau de traitement auquel est cette demande, on peut avoir, on a l'historique, et quand elle est traitée, il y a une réponse qui est faite, et puis c'est archivé. Et on a accès aux archives des demandes qui ont été faites. C'est vraiment faire par le site web les démarches habituelles que peut faire n'importe quel citoyen. Et ça va s'enrichir au fur et à mesure que les communes vont avoir à créer de nouveaux formulaires. Pour la commune de Muriel, le planning de mise en place de cet e-service, c'est, on va travailler rapidement sur le choix de ce que l'on veut rajouter, sur spécifique à Muriel qu'on veut rajouter par rapport à la liste que je vous ai indiquée. On devrait envoyer et faire valider ces fiches de téléservice pour qu'elles puissent être traitées par la société Comoé, qui est celle qui a le marché pour la métropole. Ceci par la fin du mois de juillet. En septembre, en début septembre, on aura le retour des fiches qui devraient être pour chacune des processus validés et les agents qui vont être en charge du suivi de ces fiches identifiées pour les intégrer dans le suivi et dans la base. En septembre, la plateforme sera paramétrée. Et en octobre, on devrait avoir la formation des agents sur le suivi et la mise en ligne de cette base qui sera sur une plateforme métropolitaine mais qui pourrait être accessible à partir du site de Muriel. Donc pour ça, la métropole nous demande de signer, d'adhérer à cette démarche et donc de signer une convention que je ne vais pas vous lire, vous avez certainement la vie que ce n'est pas là. Pour pouvoir mettre à disposition de la commune de Muriel l'ensemble de ses prestations. Donc il est proposé donc, de...
C'est moyen à un compte,
là, tu vois. Ça coûte combien?
Ouais. Alors, on est
à 391 euros par an. Pendant 3 ans.
Ça inclut la formation, les agents...
391 euros
par an pendant 3 ans. Le temps de l'installation, de la mise en place, la formation.
Est-ce
que ce sera sur notre site?
Oui.
C'est
oui.
Ça, ce sera
sur notre site. Alors, il y a des nuances aussi. Il y aura de toute façon accès par le site de la métropole. Mais il y aura aussi accès par notre site. Mais simplement, c'est un lien qui va vers la métropole. Mm-hmm. Il y a la possibilité pour chaque citoyen de se créer un compte au propre, nominatif, et qui lui permet, à ce moment-là, d'accéder directement à des formulaires qui sont... sur les mêmes bases, mais dans d'autres communes que la métropole. Et ça lui permet d'accéder plus facilement à d'autres informations, dans la mesure où il y a des communes qui utilisent le même système.
D'autres questions?
Oui.
Par rapport à ce sujet?
C'est pas obligé de créer un compte pour utiliser le téléservice quand on est un usager. Pas une obligation.
C'est une obligation.
Il faut avoir un compte pour pouvoir remplir les...
Moi, j'ai compris qu'il fallait simplement, quand on avait... On remplissait la fiche de demande.
Ça compte.
Il faut créer un compte.
Oui, d'accord. Et en fait, avec son identité, on peut ensuite entrer sur le service de la métropole, sur le guichet unique par exemple, sur celui de la commune, sur les médiathèques. En fait, il y a un regroupement d'identité qui permet de. Mais il y a un compte à avoir.
C'est pas comme quand on fait appel donc à la mairie, à Montpellier, sur le site de la mairie, quand tu veux un extrait d'acte de naissance. On n'a pas besoin de compte.
Voilà, mais là,
on le fait directement et par. Ouais. Ça se fait par mail.
Et là, on se crée en fait un identifiant, mm-hmm. ce qui permet d'avoir une trace de sa demande et d'avoir le suivi.
C'est pas uniquement par mail en fait.
Je vis deux listes. Ouais. Hein. Une liste principale où il y a, quand on doit choisir normalement 10 téléservices.
10 téléservices sur de base.
Plus une liste complémentaire.
Voilà.
Est-ce que ces personnes rajoutent ce prêt de complémentaire, il faut payer plus de participation?
Non, pas la licence. Puisque cette liste complémentaire, elle est faite par chacune des communes pour leurs besoins propres et elle est mutualisée après au niveau de toutes les communes. Donc la convention ne vise que des 400 euros par an.
C'est un peu dans l'esprit collaboratif, c'est-à-dire le travail qui est mené par une commune qui veut initier un nouveau formulaire,
en fait,
ça bénéficie après à l'ensemble des communes. Pour celles qui le souhaitent. Laurent, oui.
Le fait de mettre en place ce service, que se passe-t-il pour les usagers qui voudront continuer à venir à la mairie faire leurs demandes au guichet? Oui, d'accord. Ça, il faudra bien communiquer là-dessus pour bien rassurer les gens qui n'ont pas Internet ou qui ne souhaitent pas utiliser, qui souhaitent avoir un contact humain avec.
Ok, c'est bien noté.
Il pourrait être complété par exemple avec le suivi des demandes. Je pense, comme par hasard, le permis de construire, quand on dépose un permis, ou j'ai vu qu'il y a une déclaration de démarrage de travaux, ça serait bien d'avoir le suivi.
C'est une proposition qui pourrait être faite.
C'est comme pour les passeports ou autre.
Ça sert à ça en fait. Vous avez le statut de votre demande envoyé, reçu. Il y a un mail qui se génère automatiquement avec le contact de la personne qui traite votre demande, ce qui fait que vous pouvez la contacter si au bout de quelques jours vous n'avez pas de réponse. Et vous voyez le statut en fait de votre demande. D'accord. Et quand il est traité, il apparaît traité. Et donc là, en principe, on vous génère. Voilà. C'est ce qui se passe déjà. Je ne sais pas si vous utilisez le compte du guichet unique. Mais dès que vous faites une demande parce que vous avez un problème de collecte de déchets ou un problème d'éclairage public, votre demande, vous pouvez y accéder via votre compte. Et vous voyez le niveau de traitement. Et ce qui nous permet, nous, de générer tous les mois un état pour savoir le nombre de demandes dans tel et tel domaine, où est-ce, comment elles ont été traitées. Et des problèmes rencontrés par rapport au traitement de chacune des demandes des usagers.
C'est une facilité d'aider les usagers par rapport à des pratiques que vous connaissez, la mairie vous demande un papier, quel qu'il soit, vous déposez un dossier, dans ces formulaires.
Puis ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'au-delà de l'outil, la nécessité de formaliser un petit peu. Permet de rentrer un peu dans un début de démarche qualité, quoi. Donc, suivi du service au client. Si c'est pas un client, c'est un usager, mais c'est un peu la même démarche.
Dernière question.
Oui, Laurent.
Pour les agents municipaux, est-ce que ça peut augmenter leur charge de travail et le rythme aussi de travail, parce que, est-ce qu'il y aura des délais imposés de traitement, des demandes
On va voir déjà. Là, on voulait recueillir déjà le nombre de demandes qu'on a par an. C'est pas énorme. Quoi. Sur les actes administratifs, c'est pas. Donc, ça va pas surcharger, ça va permettre peut-être de les concentrer parce que.
Ça va leur éviter du papier, du traitement de papier, de l'archivage, de retrouver des demandes. Ils pourront les éviter directement à partir de ça. Et c'est sûr que si on veut contrôler l'activité d'un agent par rapport à ces demandes-là, il suffira de sortir de voir les délais de réponse. Hein.
Donc pour chaque type de formulaire, il y aura derrière un agent, un référent.
Normalement.
Oui, qui sera référencé et puis qui mettra sa ligne directe, donc qui sera pour le contact.
Je pose toutes ces questions parce qu'il y a eu des exemples de téléservices qui ont largement alourdi la tâche pour certaines dans la chaîne.
J'ai l'impression que tu parles.
Absolument. Donc derrière, effectivement, les discours qui montrent ça comme un progrès à tous les niveaux, en réalité, il y a des réalités aujourd'hui qui sont beaucoup moins.
C'est par rapport au citoyen, c'est une possibilité supplémentaire pour lui.
Ouais, mais il n'y a pas que le citoyen dans la chaîne, il y a des agents qui vont traiter tout ça derrière.
Laurent, est-ce qu'il y aura un engagement écrit sur les délais de réponse? C'est-à-dire qu'on s'engagera à répondre dans tel délai aux usagers ou pas?
Il y a des engagements de délai de réponse sur un certain nombre de procédures déjà qui sont
obligatoires, mais sinon en dehors de ça,
on peut.
Parce que sur ce genre de plateforme, c'est ça, quoi.
Non, mais c'est là où on retourne sur la question de Laurent, de l'autre Laurent. C'est. Vous mettez un délai de réponse pour 8 jours. Et les agents, ils vont être.
Oui, c'est ça, c'est tenir.
Précis, hein.
Non, il n'y aura pas d'engagement à ce niveau-là.
Ça va nous le dire, hein. Ce sera nous de voir si on en revient ou pas. C'est pas prévu pour l'instant.
Je pense que ça peut être une deuxième étape, ça.
Mais oui.
Une fois qu'on aura fonctionné avec l'outil, quand vous êtes capable
de. Non, parce que ma question derrière, c'est de se dire, est-ce que je vais gagner du temps en faisant ça, ou si je viens à la mairie, je vais avoir mon acte tout de suite. Mais en gros, c'est ça aujourd'hui quand même. Hein. Je viens à la mairie, j'ai mon acte tout de suite. Si je ne passe là que je vais 8 jours après, enfin, j'exagère, mais c'est ça la question.
Il n'aura pas déplacé. Il pourra le faire de chez lui.
Ça reste comme ça. Hein. Les formalités administratives, quand c'est urgent, tu vas physiquement, et quand c'est moins urgent, tu passes par. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je mets au vote. Qui est contre la signature de cette convention? Qui s'abstient? Donc, est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, affaire numéro 3, modification du tarif des vacations pour le musée de Muriel-les-Montpellier. C'est Laurence. On avait abordé ce sujet déjà.
Oui. Hein, donc, nous faisons appel à des vacataires pour tenir le musée du mois de juin au mois de septembre, le samedi et le dimanche. Et en juillet et en août, du mardi au dimanche. On fait appel à eux aussi pour les journées européennes du patrimoine. Après, pour les journées nationales de l'archéologie. Donc, ce sont des jeunes qui sont des doctorants, principalement. Donc, ils ont un bac plus 5, plus 6. Ils ont décidé de passer leur vacation. On est à 60 euros brut par jour. Et on passe à 80 pour la journée. Là, donc, la demi-journée, 40 euros brut. Et journée plus nuit, enfin c'est nocturne, 100 euros.
Donc l'augmentation, tu peux expliquer quelle augmentation ça fait par rapport à avant ?
Non, avant, on était à 60 euros brut la journée complète, et on était à 30 euros la demi-vacation.
Pour le même volant d'heure ?
Pardon ?
Pour le même volant d'heure de présence ?
Ah oui, bien sûr, oui. Donc on a décidé de d'augmenter, de porter à 80 euros. Alors, ils peuvent rester trois, si tu veux. Quand je prends les demi-journées, ils peuvent rester 3 heures comme ils peuvent rester 5 heures. Tu vois, c'est vraiment la demi-journée. Mais des fois, il y a des rallonges, mais ils sont payés le même prix. Parce qu'au musée, quand ils sont au musée, par exemple, Guillaume ne met pas les gens dehors à 18h. Mmh. Tu vois, il peut rester jusqu'à 18h30, il peut ouvrir un petit peu avant, voilà. Mais c'était aussi avoir des personnes disponibles parce qu'on n'arrivait plus à trouver de jeunes archéologues. Les tarifs étaient un peu bas.
On en avait discuté d'ailleurs aussi.
Mmh. Oui, on avait fait un prorata à l'heure. Ça, ouais. On avait déjà augmenté d'ailleurs la dernière fois,
non ? Non, c'est vraiment la première fois.
Pour avoir une idée, ces vacations sur l'année, ça représente combien d'heures ? Ou de demi-journée ou de
demi-journée. De demi-journée, on en est, alors attends,
grosso modo.
Moi je dirais une bonne centaine de...
C'est celle du centre de la région.
Là, on ne connaît pas
que
pour
les...
Pour ceux qui sont au musée, hein, moi je dirais à peu près une... que je ne dise pas de sottises, entre 60 et 60 jours. Non, plus que ça, entre 60 et 80 jours.
Non.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce...
Peut-être un tout petit peu moins, Laurent, parce que maintenant, Marie-Laure, en fait, tient le musée tout le mois de juillet.
Plutôt 60.
Oui. Marie-Laure est là.
Du 60, demi-journée.
Ouais. Pardon.
60 demi-journée, oui, journée. 60 journées.
Journée, tu as dit 60 jours.
Jeudi.
60 jours.
Peut-être alors 60 jours.
S'il y a 20 euros d'écart, c'est 2 fois 6, ça fait 1000 euros. Autour de 1000 euros de plus.
Ça fait 120 demi-journées. Ne serait-ce déjà que pour les journées du patrimoine, ils sont 4.
Ouais, parce que 60
si ça doit être ça à peu près.
C'est 4008. C'est 48, 4800 euros de.
Si vous voulez, on pourra faire le calcul.
Mais je vous montrerai le calcul réellement.
On fera le calcul, donc on
va un peu. Parce qu'en plus, il y a les visites de l'office de tourisme. C'est nous qui payons le kit quand il y a des visites de l'office de tourisme. Donc c'est des demi-journées qui s'ajoutent aussi. Bon, je vous ferai le décompte.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut savoir que le nombre de visites, comme j'en profite sur Muriel, augmente de façon très sensible. Hein, entre les visites de l'office de tourisme, je ne sais pas, Françoise...
Il y en a une par mois.
Une par mois. Les visites que fait Marie-Laure Montellier, maintenant la nouvelle médiatrice, hein, qui est à mi-temps aussi avec Latara qui en fait. Il y a les visites qui sont organisées lors des fonds, des journées, des différents événements. Et les visites qui sont organisées à la demande. Donc, quand on ajoute tout ça, mine de rien, la fréquentation est importante. Donc je passe au vote pour la modification du tarif des vacations, tel qu'indiqué. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Là, je crois que c'est Denis, c'est ça ? Pour la modification de la régie recette.
Si c'est... Côté financier, ça concerne la boucle territoire en mouvement,
c'est
effectivement.
Voilà.
Donc, c'est l'idée. Donc, vous savez qu'on a un projet de parcours sensible construit par un chorégraphe dans le cadre d'un projet métropolitain qui s'appelle Territoire en mouvement, qui a été inauguré au mois de novembre, donc qui est utilisé par qui nécessite d'utiliser des téléphones portables pour se connecter à un site et lire en fait le fichier MP3 qui permet de suivre en fait le parcours qui n'est tracé d'aucune autre façon que par le point de départ en fait. Ensuite on suit les indications du chorégraphe qui a imaginé ce parcours avec une sensibilité particulière, en particulier un travail sur l'eau pour le parcours de Concène-Murvière. Pour limiter en fait la contrainte liée au téléphone portable et à la connexion internet qui peut empêcher certains de réaliser ce parcours correctement, qui est ouvert hein, donc, bien sûr à tout moment, on a fait l'acquisition de lecteurs MP3, 13 ou 14, je ne sais plus, 13, qui vont être mis à disposition en mairie, au musée et à la médiathèque, et prêtés, moyennant caution, aux visiteurs qui voudront pouvoir tester ce parcours et le réaliser. L'objectif aussi, c'est de développer les animations autour de ça, de l'intégrer, par exemple, dans le programme des journées du patrimoine régulièrement. Alors, c'est un parcours qui est intégré dans les parcours touristiques de l'Office du tourisme, hein, déjà, puisqu'il y a maintenant 7 ou 8 communes en fait, de la métropole qui ont un parcours équivalent. Puis l'idée aussi, c'est de le proposer aux enseignants, aux actions TAP, aux jeunes, à toute association qui voudrait s'emparer ou utiliser en fait ce parcours comme un outil pédagogique, artistique, culturel, peu importe, enfin, il est disponible. Et donc pour mettre ces lecteurs MP3 à disposition du public, on va demander une caution et l'objet de délibération, c'est de modifier en fait hein, la régie recette de façon à intégrer la perception de la caution des lecteurs MP3 et des casques associés d'un montant de 30 euros, voire permettre cet accès. J'en profite pour dire que les lecteurs sont là, ils sont chargés depuis mardi avec les fichiers, donc on va pouvoir les mettre à disposition effectivement enfin en mairie, en médiathèque et au musée.
En sachant qu'on a acheté le programme, c'est ça ? C'est un programme ?
Oui, c'est une création qu'on achète effectivement.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parcours.
Qui a déjà fait ? Pas encore. Pas encore. Ça dure combien de temps ? D'autant que tu
40 minutes à peu près. Non, parce que tu suis en fait le fichier. En fait. Alors il a modifié justement dans ce qu'on a là sur. C'était pas le cas au début, maintenant le fichier est chapitré, donc on peut s'arrêter, revenir, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est ces versions-là du fichier qu'on a dans les états.
Par contre, ça impose à que ce soit dans les heures d'ouverture de la mairie.
Forcément, ouais. C'est un service en plus. Voilà. Parce que ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça vaut le coup de le faire de nuit, par exemple. Mais bon, voilà. Mais effectivement, là, il faudrait rendre le casque. Donc on va essayer
ceux qui peuvent télécharger l'application sur.
Oui, ça, c'est n'importe quoi.
Ah oui. Voilà.
Mais avec les lecteurs, évidemment, il faut venir au cadre de l'ouverture.
Oui, tu peux télécharger.
Ou prêter, voilà,
en 21 jours et rendre de l'ambiance.
On peut essayer, je ne sais pas, pourquoi pas.
À partir du moment où on a laissé
une
caution.
Il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez, le montant du matériel, ce n'est pas du matériel de très grande qualité. Hein. Il s'agit juste de pouvoir être équipé pour le faire. Donc ça vaut, je ne sais plus, 20 ou 22 euros, en fait, y compris.
Je pense qu'il faut que la presse, les médias, les médias libres fassent la visite pour.
Pourquoi c'est pas le cas.
Mais c'est trop moins intéressant parce que c'est une façon de visiter le village. C'est une façon de visiter le village.
Et puis l'enjeu, c'est d'avoir aussi une vision sur le territoire de la métropole qui soit peu homogène, tout en étant très particulière à chacune des communes. Sur la Vérune, il y a des choses qui sont très sur la nature. Donc ce sera intéressant dans chacun des parcours.
On vous invite à le faire.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet et puis qui se traduit réglementairement par la mise en place de cette régie?
Il n'y a pas un délai pour ramener le lecteur.
Est-ce qu'il faudrait qu'on en fasse
un peu décidé, on peut le garder 24 heures.
Le jour même ou le lendemain, pourquoi
pas. Ce n'est pas marqué dans le règlement.
Non, là, c'est juste pour pouvoir collecter la caution.
S'il y a perte.
S'il y a perte, oui.
D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre la création de cette régie? Enfin, la modification de la régie, en fait, qu'on ajoute cette caution. Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc on passe au point 5 qui est l'adhésion à la charte Terre Saine de votre commune sans pesticides. Donc je la présente à deux voix avec Laurent, hein, parce qu'on est à la fois. Il doit suivre ça. Donc en fait, c'est sur une idée de Laurent au départ. Il est possible de signer la charte Terre Saine de votre commune sans pesticides et donc d'obtenir un label. En fait, c'est un label hein, qui est délivré par le ministère de l'écologie, développement durable, énergie, MED. Alors, il a dû changer de nom, ce ministère récemment. Donc c'est un, c'est donc un label donc avec différents niveaux hein, d'atteinte de. Ça se traduit par des grenouilles. Donc on a une grenouille, deux grenouilles, trois grenouilles que l'on met sur les panneaux à l'entrée du village. En fonction, donc c'est un peu comme une démarche qualité, on se fixe des objectifs à atteindre et puis si on les atteint, ben, on passe comme ça les étapes. Et l'objectif, c'est il y a un objectif de valorisation. C'est vrai que nous déjà à Montviel, on est déjà au zéro pesticide hein, depuis 4 ans, presque 5 ans sur tous les espaces, depuis un an au cimetière. Et le seul espace qui nous manque encore, c'est le stade de foot. Sinon, donc déjà, l'objectif, c'est de valoriser ça, parce qu'on a déjà, c'est déjà un effort qui a été fait par les services techniques qui peut être valorisé. Deuxième objectif, c'est surtout d'appuyer les services techniques sur les espaces publics communaux pour trouver des alternatives. Justement, une fois qu'on a décidé de ne plus utiliser les pesticides, ben, il faut pouvoir se former et trouver des méthodes d'entretien. Alors, ce n'est plus des mauvaises herbes, c'est des herbes folles. Ou, je ne sais pas comment on peut les appeler, ou des herbes spontanées. Mais voilà, pour pouvoir aussi trouver des, par exemple, des alternatives aux débroussailleurs, aux débroussailleuses. C'est aussi comment est-ce qu'on peut dépasser l'objectif de la baie, notamment c'est par rapport au stade de foot. Jusqu'à présent, les cimetières et les stades de foot étaient écartés de cette loi. Mais comment est-ce qu'on peut aller au-delà, et y compris obtenir ces objectifs-là, atteindre ces objectifs-là sur ces espaces-là. Et puis il y a un dernier volet qui est du coup comment la collectivité, en étant sans pesticides sur les espaces publics, peut entraîner les particuliers dans leur jardin à ne plus utiliser de produits phyto. Donc vous le savez, pour les collectivités, c'est au 1er janvier 2017 qu'il est devenu obligatoire pour les communes de passer au zéro phyto. Donc toutes ne le sont pas encore, hein, elles sont en train d'y passer. Nous, on y est déjà, comme je vous l'ai dit. Et par contre, pour les jardiniers, je crois que ce sera en 2019 ou 2020. Je crois que c'est 2020. Où les jardiniers ne pourront plus acquérir de produits. Laurent, tu me diras.
Oui, la vente des produits sera interdite aux particuliers, et tous les produits phytosanitaires. Par les produits bio. Ouais. Je crois que c'est 2020.
Ouais. Ouais. Donc, il y a tout un enjeu, là, aussi de voir comment on peut accompagner les particuliers.
Donc on ne vendra plus de Roundup, de choses comme ça.
Absolument.
C'est ça.
Absolument.
Mon particulier va être ruiné.
Ouais.
Bon, il a d'autres filières.
Non, je le crois. Ah non, mais je trouve ça.
Ça a été repoussé.
Étonnant.
Ça a été repoussé.
Tant mieux, tant mieux.
Des adjuvants qui sont établis, ce n'est pas le glyphosate. C'est certains.
Non, mais les glyphosates, c'est un
terme. En tout cas, oui. En tout cas, les. Bon, je ne les rappelle pas ici, mais ils sont connus. Les objectifs, c'est déjà les questions de santé du personnel, protection de la santé, mais aussi santé des riverains, etc. C'est quand même agréable de se trouver dans un village où il n'y a pas de produits phytosanitaires, l'air n'est pas pollué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on parle de nos espaces qui sont restés communaux suite au passage, au transfert des compétences à la métropole. La métropole, en reprenant nos voiries et les espaces publics attenant aux voiries, à respecter notre engagement, bien entendu, et continue à travailler comme on travaillait nous, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent ici aucun produit phyto. C'est aussi pour bien des questions de biodiversité, bien sûr, et de reconquête de la qualité des eaux. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, on a déjà une convention de signer avec le CIBLE, le syndicat du bassin du Lez. Et là, l'idée, c'est aussi d'en signer une avec la Fredon. Alors la Fredon, c'est, tu pourrais nous dire, Laurent
Fédération régionale, des organismes de défense contre les ennemis des cultures.
Voilà. Pour nous aider à progresser, donc. Et on pense que déjà, on peut facilement, en s'inscrivant, atteindre les deux grenouilles.
Et c'est quoi le maxi?
Je crois qu'on peut passer à 3.
Ah, vous visiez quoi?
Voilà. Donc on vise par un progrès, une progression, voilà, d'atteindre ce niveau-là. Et donc ce qu'on vous propose, bah, c'est de pouvoir que la commune puisse candidater pour obtenir ce label national Terre Saine, en suivant bah, la grille d'évaluation, le cahier des charges. Et puis, on peut le faire parce que bon, nous, on est vraiment depuis au moins d'un an déjà engagés. Donc, on peut déjà, à ce titre-là, atteindre un certain niveau, comme je vous le disais, et continuer à progresser. et à surtout valoriser le travail, comme vous disiez, qui est fait, et entraîner les particuliers.
Oui, parce que...
Laurent.
Oui, juste pour prolonger ce que tu dis. Muriel, je pense, avait beaucoup d'avance sur le sujet, hein, même avant nous. L'équipe avant nous avait déjà adopté cette politique, hein, de réduire ou d'arrêter totalement les phytos sur pas mal d'espace. Mais effectivement, on ne le valorisait pas par de la communication. Voilà. Alors qu'il y a des communes qui se sont mises beaucoup plus tard, mais qui tout de suite ont, ont beaucoup communiqué dès qu'elles ont arrêté d'utiliser ce type de produit. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse aussi communiquer, ouais, que la population le sache, et puis que les visiteurs aussi voient qu'on est sur les communes. Puis c'est en cohérence avec quand même nos viticulteurs qui, quand même, sont pour une part d'entre eux très significatives, hein, ont adopté les modes de production biologique. Donc voilà, c'est aussi d'avoir une commune cohérente entre ce qui se passe dans l'agriculture et ce qui se passe sur les espaces communaux.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des observations ?
Est-ce qu'il y a un coût d'adhésion ou pas ?
Non.
Non, voilà. Et après, comment on va communiquer là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que ça nous apporte, il nous apporte une communication de cet organisme ? Parce que je crois que tu as raison, il y a des communes où on passe, où c'est à l'entrée, il y a un panneau. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça.
Je crois qu'il y a la déjà. Mmh.
Oui, j'ai vu, je ne sais plus où, mais c'est ça, je pense, c'est ça.
Voilà, donc là, je pense qu'il faudra quand même qu'on acquiert les petits panneaux.
Oui, ouais, c'est ça.
Mais... Non, là c'est plutôt le fait de c'était une mesure incitative du ministère de l'Environnement, c'est-à-dire le fait d'adhérer à cette charte, on est appuyé, ouais, d'un point de vue méthodo, je dirais, hein, et voilà, formation, etc., pour progresser. Et on est valorisé dès lors qu'on atteint les objectifs qu'on se fixe. Les objectifs de progrès, hein, c'est vraiment une démarche de progrès. Et on est évalué. Ouais. Ils viennent voir.
C'est contrôlé. Ouais.
S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre notre adhésion à la charte de Tersen ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Écoutez, il y a un sixième et dernier point qu'on a ajouté en début de conseil sur
la décision modificative. C'est un mouvement budgétaire, tout simplement. Entre les comptes 21-81 et 23-13, sur les postes d'investissement. Donc sur le poste 21-81, on va rajouter 50 000 euros et on va enlever 50 000 euros sur le poste 23-13. Ce qui fait que le chapitre 21 est crédité d'un montant total de 126 300 euros et le chapitre 23 passera à 136 808 euros.
Oui.
Alors, le chapitre 21-81, c'est le chapitre installation générale et matériel divers, c'est-à-dire c'est ce qu'on achète. Par exemple, là, j'ai vu, tu sais, les achats d'ordinateurs, on a acheté des climatiseurs, on a acheté des ventilateurs, des volets roulants, il y a les décos de Noël, il y a du terrassement. C'est tout ça. Et après, le 23-13, les immobilisations en cours et construction, Marie, dedans, elle met, bon, il y a un montant, mais elle met ce qui est pas encore payé, c'est ça ?
ce qui est du plus long terme
du bâtiment.
Alors comme au budget on avait prévu d'enclencher, c'est ça, et ça prend du retard, il y a des sommes moins importantes qui seront engagées cette année que prévu, ce sera reporté l'année prochaine sur notamment la maison normande handicapée, ça va s'étaler un peu plus, s'échelonner un peu plus que prévu, il y en aura plus en 2018 qu'en 2017, etc. Ça, on a basculé une partie de ces investissements qui étaient plus supprimés là. Somme, sur une somme où par contre on a plus de dépenses cette année. Donc là, ça permet de voir l'argent.
Il y avait la borne électrique aussi qu'on a mis sur borne électrique et où qu'on a mis sur le terrain de la crèche, tu vois, donc des gros montants. Donc il faut pouvoir payer tous ces petits investissements, d'où tout simplement le.
Ça ne change pas la.
Mais ça change rien du tout. C'est simplement un jeu d'écriture.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette proposition de décision modificative ? Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté, merci. Ben, je crois qu'on a épuisé maintenant l'ordre du jour. On peut venir aux questions diverses. Donc il y avait deux points d'indiquer, un point sur la réforme des risques scolaires et un point sur la sélection de repreneurs de bar. Peut-être avant cela, si je me permets, si vous voulez bien, d'en rajouter un. C'est les événements récents au Conseil métropolitain. Donc tout frais, parce que ça s'est passé dans la semaine qui vient de s'écouler. Depuis lundi, je dirais, la semaine dernière et hier. Donc vous l'avez vu, on a mis un courrier, l'ensemble de l'équipe municipale, hein, à l'unanimité, enfin, la majorité, Muriel Notavenir, sur ce sujet a été unanime, je veux dire. Face à ce que, la décision du président de la métropole, Philippe Sorel, et l'injonction qu'il a faite donc, au vice-président d'adhérer à un groupe La République En Marche et Apparenté qu'il a mis en place, donc, et qui nous a annoncé la semaine dernière. Donc, les maires vice-présidents ont été mis au pied du mur. Je vous rappelle que dans le bureau, il y a 20 vice-présidents, dont 5 de Montpellier et les Montpelliers, et les 15 autres sont soit des maires, soit des premiers adjoints de 15 communes, en fait. Tout de suite, bon, on a eu une réunion le lundi soir immédiatement, hein, mais déjà en salle, j'avais annoncé la couleur, salle des conseils, que pour nous, à Murviel, il n'était pas question, vu notre particularité d'être une liste sans étiquette, divers gauche, écologiste et citoyenne, mais sans étiquette, rassemblant en son sein une large gamme de sensibilité, qui était de son exclu d'adhérer à un groupe politique ou un autre, même si un groupe était La République En Marche et apparenté, je vérifie, apparenté, c'est quand même signer un contrat, hein, politique avec le groupe que l'on s'apparente. Voilà, donc on a à l'unanimité, je dirais, décidé de ne pas rejoindre ce groupe politique ni aucun autre. Et donc de ce fait, la deuxième question qui était posée par l'ultimatum qui était posé par le président, c'est-à-dire que du coup les maires devaient démissionner. Et donc on a à l'unanimité également décidé de ne pas démissionner, que je ne démissionnerai pas du poste de vice-présidente. On est très conscient de ce que cela signifie pour la commune de Murviel par rapport à la métropole. On a bien mesuré, je pense, on a beaucoup discuté, on a discuté entre nous, on a bien mesuré ce choix qu'on faisait que je ne démissionne pas. Parce qu'on a estimé que chacun pourra dire ce qu'il en pense, mais on a en tout cas estimé de notre côté que la démarche était absolument, absolument pas démocratique et que c'était vraiment de l'ordre du chantage. Et que c'était absolument en rupture totale avec tout ce qui avait été convenu au sein du conseil métropolitain dans les 3 ans qui précédaient, qui justement était en fonctionnement apolitique, avec juste en ligne de mire l'intérêt du territoire, les projets, la coopération intercommunale, et absolument pas de place au positionnement politique. Voilà, donc j'ai déjà eu un premier coup de semonce au Conseil métropolitain ordinaire, je dirais, de mercredi dernier, où j'ai appris donc... Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avant cela, malgré ce qu'a dit le président hier en séance, je n'ai jamais reçu aucun coup de fil, aucun SMS, aucun contact. Je n'ai jamais été informée à l'avance de ce qui se préparait. Donc, j'ai appris en salle. Le seul contact que j'ai eu, c'est après, le lundi après-midi, où quelqu'un du cabinet m'a appelé pour me demander de déposer ma lettre de démission. J'ai dit que je ne le ferais pas. C'est le seul contact que j'ai eu. Le mercredi suivant, donc conseil métropolitain de la semaine dernière, ordinaire, j'apprends donc en conseil, à l'occasion d'une affaire portant sur l'agence locale de l'énergie dont j'étais présidente, parce que j'avais été élue par le conseil communautaire au conseil d'administration de l'agence locale de l'énergie et du climat, et que voilà, j'avais été élue présidente au sein de cette association. Cette association que je préside a décidé de modifier les statuts pour justement permettre à d'autres communes que la commune de Montpellier jusqu'alors de pouvoir aussi être présentes au CA, des plus petites communes. Donc il fallait modifier les statuts. Donc justement c'était à l'ordre du jour de ce conseil. Et à l'occasion des modifications de statuts, le président donc, a redéfini les 4 nouveaux représentants de la métropole à l'ALAE. Donc j'ai appris sur table que je n'étais plus représentant de la métropole, de l'agence locale de l'énergie. Que donc dans la foulée, je n'étais plus présidente. Ben, en plus, je n'ai pas reçu un coup de fil, quoi que ce soit. Voilà, j'ai reçu l'arrêté du président retirant ma délégation à l'agroécologie et l'alimentation vendredi la semaine dernière, par courrier, comme l'ensemble des vice-présidents qui ont refusé de démissionner. On est au total 7 maires à refuser d'être vice-président à maire ou premier adjoint. Castelnau-le-Lez, c'est la première adjointe, à refuser à adhérer, donc à intégrer le groupe. Donc ces 7 sortent du bureau, un a démissionné de lui-même, Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges, et les 6 autres ont décidé de ne pas démissionner et donc de renvoyer le président et le conseil métropolitain à leurs responsabilités. Donc un conseil métropolitain extraordinaire s'est tenu hier. Je m'étais réunie avec les maires, les 5 autres maires, pour voir comment on prenait parole, etc. Et on a décidé à ce moment-là de demander à ce que le vote à bulletin secret soit réellement un vote à bulletin secret, avec le respect de la confidentialité du vote, chose qui n'est pas assurée aujourd'hui dans l'enceinte du Conseil, puisque quand on se font des votes à bulletin secret, l'urne tourne dans les tables, et chacun doit écrire sur son bulletin, au vu et au su des voisins, bien entendu, et puis surtout de tous les spectateurs, les médias et le cabinet du président qui surveille et prend des photos d'en haut sur les votes que l'on fait. Malgré notre demande, la demande n'a pas été satisfaite. On a quand même eu le vote à bulletin secret parce qu'on a été plus que 30% du conseil à le demander. Et donc, ça a été très long, très pénible. Et donc, au final, on a tous été démis, bien entendu, de retirer de nos fonctions de vice-président. Et les votes oscillaient entre 30 et 35 pour le maintien. Et on était 88 exprimés. Et donc, entre 50 et 55, 53 ou 55, contre pour le non-maintien. Qui fait, en ce qui me concerne, par exemple, vous donnez un intérêt parmi les exprimés, ça fait 40% pour le maintien et 60% contre. Ce qui montre que l'Assemblée maintenant est divisée en deux, quoi. Vraiment déchirée. Le territoire, pour moi, est maintenant déchiré. Il y a une blessure, une fracture qui ne cicatrisera pas, je pense. On ne pourra plus fonctionner de la même manière, c'est clair. Quand on va discuter des projets, recevoir des délibérations au Conseil, on ne regardera plus de la même manière. Là, il y avait confiance à tout niveau, quoi, hein, parce qu'il y avait du dialogue, il y avait des échanges. Voilà, il y a quelque chose qui est ruiné. Il y a eu un changement de stratégie du président, il l'a dit dans un article. Je suis extrêmement, extrêmement, pour ma part, déçue. Je pense qu'à Murviel, on avait vraiment joué le jeu, tous les élus, on a été sur beaucoup de sujets, hein. Je pense à l'enfance et la jeunesse, je pense à la culture, je pense à l'emploi, enfin il y a des tas de sujets dans lesquels on a vraiment joué le jeu de la coopération intercommunale, la mutualisation, etc. Quand j'étais, c'est ce que je disais aussi en conseil, quand moi j'étais comme vice-présidente au bureau, j'ai pas cherché à tirer la couverture à Murviel, j'ai toujours été dans une attitude de l'intérêt général et en bureau, je ne parlais pas, à la différence d'autres maires, je ne parlais pas des questions murvieloises, je parlais de ce qui traitait de ma délégation ou des autres délégations, donc il y a des postures maintenant qui vont être différentes et puis je trouve que c'est extrêmement dommageable, c'est du gâchis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du gâchis. Voilà, donc je voulais vous en informer.
Il y a des raisons, Isabelle, il y a une raison très forte. Pourquoi cette décision a été prise? C'est quoi l'intérêt, en fait, de la métropole?
À l'intérêt de la métropole, pour moi, il n'y est
pas. Mais pour toi?
L'intérêt de Sorel, tu l'as dit.
C'est l'intérêt d'un homme, mais pas de la métropole.
D'accord, l'intérêt, c'est quoi l'intérêt?
C'est politique.
C'est politique, d'accord.
Poser la question sans même.
Pour dire à la métropole de Montpellier est en marche, c'est ça?
Bon,
non,
même
pas.
Il y a des cas qui se mettent tout seul en marche.
Ça paraît
limite, non ? Il y a des
élections
municipales.
Pareil, élections municipales.
Il y a deux choses, ouais, je pense. Peut-être juste par rapport à la question de
Gilles. Il a pris la place.
Par rapport à la question de Gilles, Il y a deux choses, c'est que qui sont concomitantes. Au lendemain des législatives, c'est sûr que le président, Philippe Sorel, donc était suppléant d'une candidate députée hein, sur la deuxième circonscription, Stéphanie Jeannin. En face de lui, il y avait une candidate France Insoumise, c'était Muriel Récillier, dont suppléant était René Révol. Et c'est sûr que la défaite de Stéphanie Jeannin, je pense que pour le président, c'est une défaite personnelle. Déjà vis-à-vis de René Révol, il y a aussi un fort vote France Insoumise sur la métropole, sur Montpellier, je veux dire, sur Montpellier, et puis sur certaines communes comme Amiens, par exemple, ou d'autres. Et je pense qu'il y a eu une volonté d'écarter certains élus de la métropole qui devenaient peut-être dangereux ou menaçants plutôt. Je ne parle pas des différends avec Castelnau-le-Lez, Jean-Pierre Grand, etc. Et je pense que en même temps concomitamment, c'est ça, parce que en vue des municipales, elle est préparée en prenant l'étiquette
la place.
Et faire une pierre de coup, c'est-à-dire créer ce groupe, prendre la main sur La République En Marche, bien sûr, un affichage, et en même temps, en demandant au vice-président d'y adhérer, quelque part, exclure de fait ceux qui n'y vont pas. Et puis, je suis désolée pour vous, pour Nouvelle, mais je pense que nous sommes dans les dégâts collatéraux.
Oui, tout à fait. C'est clair.
Comme Pignan, comme je pense Pierre Bonnat-Locresse, on est dans les dégâts collatéraux. C'est mon analyse. Oui, tu veux, Thomas ?
Merci d'avoir soutenu le sujet, Isabelle. Conseil métropolitain très long, 5h36, vote inclus. Hier, je l'ai suivi, le conseil exceptionnel métropolitain, une mascarade démocratique. L'enceinte démocratique à laquelle tu siégeais dignement jusqu'à hier soir en qualité de vice-présidente. Alors, je ne referai pas le long débat qui s'est tenu pendant plus de 2 heures. Je tenais à te remercier pour ton discours, durant lequel tu as rappelé nos valeurs, que tu rappelles ce soir, et qu'à ce titre, tu ne pouvais rejoindre aucun parti politique. Durant ce conseil, à maintes reprises, le président Sorel s'est montré méprisant envers ses interlocuteurs, comme il s'est permis de chanter pendant la prise de parole de Claire Jeannadot, conseillère municipale de Herbel, en ne répondant pas à tes questions quand tu lui demandais où tu avais failli. Sache que moi, contrairement au maire de Montpellier, et je pense parler pour beaucoup de monde au sein de l'écoute, j'ai toute ma confiance dans la gestion de la commune. Maintenant que ceci est dit, je tenais à rappeler à tous que lors du conseil municipal du 2 octobre 2014, je suis le seul à m'être farouchement opposé au passage en métropole, soi-disant dirigé par un pacte de confiance, pacte qui a brûlé avec moi hier soir, sans raison apparente. Et donc maintenant, qu'adviendra-t-il si on était de même pour la conférence des maires et le droit de veto de chaque maire?
Tu as raison, merci.
Il y a, à mon sens, une question à se poser, c'est est-ce qu'il faut rester dans cette métropole? Donc, Palavas en 2004 a entamé les démarches pour la quitter, l'a quitté et ça se passe très bien. Je te l'enverrai, Nathalie.
Pour revenir sur ce que dit Romain, la métropole, on l'a pas fait personnellement. Moi, je n'ai pas décidé parce que c'était Philippe Sorel qui en était le président. C'est le projet métropole, il est plus grand que Philippe Sorel. Et donc dans 3 ans, dans quelques années, il y aura quelqu'un d'autre et puis il y aura quelqu'un d'autre. Donc ne pas y aller, c'est pas en sortir, c'est pas considérer qu'il ne faut plus travailler Philippe Sorel. C'est considérer qu'il y a plus d'avantages à être dehors qu'à être dedans. Et ça, moi je n'en suis pas du tout convaincu pour une commune de 1900 habitants.
Après. Ça c'est tout.
Ouais, mais.
Oui, mais en échange. C'est... Oui.
On va peut-être pas ouvrir le débat.
Non. Je dis ça pour pas que tu aies le sentiment que la boucle est bouclée en ayant dit au départ qu'on n'aurait pas dû y aller. C'est un autre sujet qui est en train de se passer, c'est pas la métropole qui faillit. C'est le président qui a une stratégie qui est la sienne, qu'on ne partage pas. Mais c'est pas la métropole.
Je vais répéter ma question, qu'adviendra-t-il maintenant s'il y a des mêmes pour la conférence des maires ou le droit de veto de chaque maire? Puisque le pacte de confiance porte un éclat comme ça, il peut être de même pour tout le reste.
Oui, ça, on...
Sur
ce sujet-là, on est qu'un petit morceau de la décision. Donc, moi, ce qui m'a profondément choqué dans cette démarche-là, c'est que la métropole, moi, j'étais farouchement pour, en plus avec le programme que proposait Philippe Sorel, sur son pacte de confiance, sur la conférence des maires, toutes ces démarches-là qui permettaient de laisser une certaine autonomie aux communes avec un maire, une voix, ça me semblait tout à fait cohérent. Et là, il y avait une démarche qui avait été reprise par le mouvement politique En Marche après, de retrouver, redonner un peu de valeur au sens politique, et politique avec un grand peu. Et là, on assiste à une démarche qui est exactement l'inverse, qui revient à se faire de la politique politicienne. D'autant plus que ce mettant en avant qu'il est son nom d'En Marche est apparenté, alors qu'en fait, ce que j'ai fait remarquer, c'est qu'il est pas, lui, il n'est pas adhérent d'En Marche, qu'il n'y a eu aucune consigne d'En Marche pour pouvoir mobiliser les électeurs ou les adhérents d'En Marche dans les collectivités locales. Donc c'est vraiment de la politique politicienne de bas niveau qu'il est en train de remettre. De remettre sur le tapis. Et effectivement, les risques, on verra. J'espère que non. Les risques, ils existent maintenant.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une majorité d'élus qui est suivie. Quoi. Vote à bulletin secret, on pourrait s'attendre à autre chose. Hein.
Voilà, c'est Montpellier.
Montpellier représente 53
votes. Il y a toujours des gens qui...
Chasser le naturel, il faut bien.
Mais ça veut dire que le pacte de confiance,
il est... Il y en a un côté du vice-président.
Ah, il est ébranlé, ça c'est
sûr. Il est ébranlé, donc voilà. Donc, la conférence de maire, comme il dit, et puis le blocage par un seul maire ou le vote des maires, il n'y est plus. Donc c'est le vote.
Il a beau dire que c'est deux choses différentes, l'exécutif, hein, ce qui se passe au niveau exécutif, et que la conférence des maires continuera à fonctionner de la même façon, une commune, une voix, on aura du mal à continuer à travailler en confiance dans ce contexte-là, ça c'est clair. Parce qu'il y aura forcément les maires qui sont dans le groupe, voilà, et puis dans le groupe. Donc on sait que quand on est dans un groupe, ben on est mieux informé, on est suivi, on est plus près des services, on est... Donc comment voulez-vous que la confiance règne au sein de la conférence des maires, parce que...
Donc, ça veut dire, rassure-nous, les agents de la métropole vont continuer à nettoyer les trottoirs de Montpellier.
Non, mais par contre, je pense qu'il va falloir qu'on soit vigilant sur ses engagements, hein, parce qu'on avait des projets quand même avec la métropole, et sur ses engagements, et puis qu'on ne devienne pas les 7 communes oubliées de la métropole. Je pense qu'il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'on risque d'être mis à part, c'est vrai.
Signer des conditions de compétences, de partage, des choses comme ça. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ces choses-là ne s'appliquent pas.
Et lui, personnellement, il ne l'a pas justifié quand même d'une manière. Il aurait dit, par exemple, qu'on soit adhérent parce que vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la région, vous êtes tous.
Non, il y a Max Lévita qui a fait dans son dernier discours. Max Lévita à la fin. Parce que toujours dans les prises de parole, il s'attache à ce que ce soit lui qui close les débats et qui fasse le mot de conclusion. Max Lévita, toujours. Lui, c'est ça, ce qu'il a amené, c'est de dire, oui, maintenant, on est dans la France et dans un État, l'audit, les 8 milliards qui manquent, etc. Donc la situation va être extrêmement tendue au niveau national, etc. Donc il vaut mieux
suivre le mouvement national.
Et puis...
C'est pas valable, ça. C'est une étiquette.
Et puis, dans la politique, il n'y a pas du bon et du mauvais... Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de valeur.
La seule réponse qu'il vous a apportée, Philippe Sorel, c'est de dire j'ai besoin d'avoir confiance. C'est la seule chose qu'il a répondu à chaque fois. Chacun a posé la question pourquoi vous m'enlevez ma vice-présidente. Il a juste répondu j'ai besoin de travailler en confiance. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il ne travaillait pas en confiance avec vous. Enfin, je le ressens comme ça. Quoi.
Et chacun des vice-présidents, c'était 6. A dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait?
Oui, c'est ce que c'est.
Qu'est-ce que j'ai mal fait?
Il a jamais répondu là-dessus.
Isabelle, tu l'as dit au début, la lecture que j'en fais, c'est que c'est effectivement une stratégie politique qu'il a, lui, en disant qu'autour de lui, il veut des vice-présidents, mais c'est bien son bureau qui les réorganise politiquement, parce qu'il a un ou deux maires dans certaines communes, tu les as cités, enfin tu as cité les communes, qui sont politiquement très opposées à lui et considèrent qu'ils ne peuvent plus, à ce titre, rester vice-présidents.
Oui, mais à ce moment-là,
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il agite un chiffon rouge, qui est un leurre, qui consiste à dire, alors que lui-même n'est pas en marche, maintenant, nous, on est en marche et apparenté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces communes-là et ces maires-là, ils réagissent en disant, ben nous, jamais on peut continuer là-dedans. Donc, ils sortent d'eux-mêmes, c'est ce qu'il a cherché, et tu l'as dit, les dommages collatéraux, c'est les autres maires, qui, et les communes comme nous, qui, pour d'autres... pour d'autres raisons, c'est-à-dire d'être sans étiquette, on n'y va pas non plus. Et c'est les fameux dommages collatéraux. Il y a, sur des communes comme Mairie, il n'a pas de raison à invoquer. Mais c'est un dommage collatéral. Donc, ouais, c'est tout. Mais du coup, il fait sortir les maires qui voulaient faire sortir juste parce qu'il agite un chiffon rouge. Ils ont réagi. Et il repart avec ceux qui... Voilà. Mais après, il n'a pas d'explication plus que ça à donner à ces fameux maires, parce qu'il n'y en a pas.
Mais non, il n'y en a pas, puisqu'il gouvernait avec, enfin, il gouvernait entre guillemets avec vous. Il y avait des gens de droite, de gauche, du milieu, des verts et des pas verts. Donc, il se met en marche, mais il a qu'à se mettre tout seul. Mais ça ne change rien, puisque les maires ne vont pas changer. Enfin, je ne comprends pas. Ils n'étaient pas tous du même bord.
Mais il est en marche.
Oui, non, mais c'est ça. On sait qu'il est une étiquette, c'est tout. L'étiquette, c'est connu, mais il n'est pas en marche. Non.
Et je rejoins Romain pour te remercier pour l'attitude que tu as eue dans cette affaire, Isabelle, qui m'a semblé très digne et qui est totalement fidèle effectivement au pacte qui nous a unis depuis le départ autour de MLA. Donc merci d'être resté fidèle dans un contexte qui était quand même très compliqué.
Merci de me dire merci, mais je crois qu'au final c'est ça allait de soi, c'est-à-dire c'est l'essence même de la Constitution.
Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, on est fiers d'être mieux des lois.
Je crois que c'est tous, on a été unanimes. Hein. Quand on s'est réunis, on a été unanimes là-dessus. Donc c'est pas...
On a joué solidaire, un petit, certes, mais solidaire.
Non, même les autres communes. Hein. Enfin, ça a été signalé notamment par le maire de Pignan qu'elle avait des appels de Condon-Terral, alors que Condon-Terral ne s'est pas positionné dans ce sens-là, des autres communes pour dire non, mais c'est bien ce que vous avez fait, allez-y. Enfin, il faut résister, entre guillemets.
Moi, dans nos bottes.
Ouais.
Je pense que c'est pas seulement la majorité du conseil municipal, c'est tout le conseil municipal.
Oui, je n'osais pas aller au-delà, mais...
Vous ne voulez pas parler de
Je l'ai écrit sur...
C'est bien, on est content de voir que sur cette question, on se rejoint.
C'est une question de principe, donc.
En tout cas, moi je crois que tout ça, ça va faire du mal au mouvement La République En Marche. Moi, je crois. Il va falloir qu'il y ait une réaction, à mon avis, parce que...
Oui, c'est peut-être une balle à pied, hein.
Peut-être.
Le député
a réagi. On passe
au point suivant, s'il vous plaît, la réforme des rythmes scolaires.
Serge. Oui, donc sur la réforme des rythmes scolaires, vous savez que depuis 2013, Muriel est passé au nouveau rythme scolaire. On a été, c'est l'ancienne équipe municipale qui l'a mis en place. Des précurseurs ici, puisqu'on l'a fait dès 2013, où on est repassé à 4 jours et demi avec l'école le mercredi matin, et le président Macron, dès qu'il a été élu, a annoncé qu'il a laissé il laisserait la possibilité aux communes de s'autodéterminer pour faire machine arrière par dérogation dès la prochaine rentrée, et puis ensuite toutes les années suivantes, si elles le souhaitaient. Donc, nous, on s'était assez rapidement positionné entre nous pour dire que, compte tenu du timing qui nous était proposé pour se positionner, puisqu'en fait, dès mi-mai, on n'avait toujours pas le décret d'application qui allait nous permettre de comprendre dans quelles conditions ça allait se réaliser. On avait pris la position entre nous de dire que c'était un timing qu'on ne pouvait pas tenir et qu'on allait préparer la prochaine rentrée en conservant le rythme actuel et qu'on se poserait la question l'année prochaine de changer ou pas, mais qu'en tout cas, pour la rentrée, on ne changeait rien. Donc c'est ce qu'on a annoncé, ce que j'ai annoncé pour le conseil municipal par mail. Et j'en ai profité pour demander aux parents de nous donner leur avis sur ces rythmes scolaires et de manière motivée pour comprendre qu'est-ce que les parents, comment ils avaient vécu depuis 2013 cette réforme et quelle était leur opinion sur le fait de changer ou pas, sachant que l'idée derrière, c'était de se dire que si très majoritairement les parents mervellois considéraient qu'il fallait y revenir, on se serait posé sérieusement la question de le faire. Puisque dans certaines communes, c'est le cas, ils sont très majoritairement favorables au changement. Et il se trouve que donc à Murviel, le résultat de ce questionnaire a démontré que d'abord, il y a eu très peu de participation, puisqu'il y a eu 22% de participation sur les 157 familles. On a eu 35 réponses, et que sur les 35 réponses, c'est relativement partagé, puisque vous en avez 21 qui proposent le changement et 14 qui proposent de ne pas changer. Donc du coup, sur ces bases-là, nous, on a confirmé le fait que, puisque le Murvélois n'affichait pas l'idée de changer, enfin les parents ne souhaitaient pas très majoritairement changer, on ne le ferait pas et on reconsidérerait la question l'année prochaine. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si tant est qu'on ait voulu le faire, le décret d'application qui est sorti finalement le 28 juin prévoyait qu'il fallait que ça soit une demande concertée à la fois de la mairie et des conseils d'école. Et donc, ils se sont tenus des conseils d'école extraordinaires le 3 juillet, dans des conditions un peu à l'arraché, puisqu'on avait jusqu'au soir même pour les tenir. Donc, on a fait le matin et le soir. Il se trouve que les deux conseils d'école se sont prononcés favorablement pour le changement. Mais pour le conseil d'école élémentaire, ça s'est joué à une voix. C'était à 6 voix contre 5.
Et quatre abstentions.
Et notamment Isabelle et moi qui nous sommes abstenus pour laisser les conseils se prononcer tout seuls. Et donc c'est bien à 6 contre 5, c'est-à-dire avec un partage des enseignants et un partage des parents délégués sur la question, que ça s'est fait. Donc on voit bien qu'en fait, à la fois chez les parents, chez les enseignants et chez les parents délégués, la question n'est pas tranchée. Nous, on a quand même signifié clairement que notre préoccupation, c'était l'organisation logistique humaine de la rentrée, quels que soient les horaires. Il fallait que nous, on soit capables d'organiser ça de manière sereine et que le 3 juillet, c'était plus possible. Enfin, c'était très compliqué pour nous de changer et que ce n'était pas à nous d'aller décider s'il fallait refaire quel jour ou quel jour ni, même si on a... Bon, personnellement, j'ai une idée, mais enfin, en tout cas, elle n'est pas connue et c'est pas ça qui... Et puis, je ne sais pas toi, Isabelle, mais enfin, c'est pas ça qui emportera la décision. On a demandé à tout le monde. Bon, donc on en est là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un recensement. Là, on sait que globalement, dans l'Hérault, c'est un tiers des communes qui va rechanger dès l'année prochaine et deux tiers qui annoncent se poser la question plus tranquillement l'année prochaine parce que les motifs qui sont mis en avant, c'est des motifs de planning. Hein, et notamment, un motif qui est intéressant, c'est de dire que la réforme n'a que 3 ans ou 4 ans, comme ici, et c'est trop court pour avoir un retour sur l'efficacité ou pas de ce rythme-là, et de se reposer à la question l'année prochaine. Voilà, donc c'était... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme la mairie ne s'est pas prononcée à côté des conseils d'école sur un changement, il n'y aura pas de changement, mais que le motif principal qui est retenu par l'éducation nationale et la direction académique pour ne pas changer à Muriel, c'est pas celui-là, c'est qu'il n'y a pas un consensus dans la communauté éducative, c'est-à-dire entre le conseil d'école, pour changer, puisque, donc je vous l'ai dit, conseil d'école élémentaire, 6 voix contre 5, il n'y a pas de consensus là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors après, par contre, ce que je souhaiterais organiser dès la rentrée, c'est des discussions avec les parents, tous les parents, pas que les parents délégués, tous les enseignants et pas que les directrices, parce qu'on voit bien que quand on discute, et le sondage le montre aussi, enfin le questionnement le montre aussi, c'est que on a tous, enfin disons tout le monde a une vision différente du sujet et que selon qu'on veut revenir à 4 jours ou selon qu'on veut rester à 4 jours et demi, on invoque des motifs complètement différents. D'un côté, c'est le rythme de l'enfant à l'école, c'est les conditions d'apprentissage qui sont mises en avant majoritairement par ceux qui veulent rester à 4 jours et demi. Et puis des problématiques plus périscolaires, d'organisation du temps ou de fatigue, ce qui est très important, de l'enfant, pour ceux qui veulent repasser à 4 jours. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Il va falloir, si on veut trancher la question, il va falloir qu'on sache quelle est la priorité qu'on se donne pour changer ou pas changer, quel est l'objectif des rythmes scolaires. Est-ce que c'est le planning de l'enfant? Est-ce que c'est le temps d'école? Enfin voilà. Ça, on l'organisera à la rentrée avec tous nos interlocuteurs de l'école. Voilà. Donc du coup, on est en train d'organiser des inscriptions au TAP pour la rentrée, sachant que c'est pour nous une organisation très lourde, hein, en interne, d'organiser ces TAP, puisqu'on a 90% de participation au TAP, on a plus de 200 enfants. Tous les jours, là, je vous propose d'organiser chacun chez vous un anniversaire de 4 à 5 avec 200 enfants qu'il faut, voilà, pour mener des activités. C'est ce qu'on fait tous les jours aux écoles. Hein, 12 activités qui sont déployées en même temps pour 200 enfants, avec un projet à chaque fois, et avec une rotation tous les 3 mois. Donc c'est assez lourd à organiser.
Voilà. Et avec un coût pour la commune.
Et avec un coût pour la commune.
Ouais.
Ça sera la question.
J'imagine qu'il y a des communes où ça a dû poser lourd aussi, la question budgétaire.
Ah, bah, c'est la question. Bien sûr. Ça a peut-être été la première raison. Mais...
Oui, après, on n'a pas les motifs.
Après, moi, où je suis surpris, c'est du taux de participation. Quoi. Ils ne sont pas emparés du truc, parce que 20% de participation, je trouve que c'est vraiment sur un sujet aussi important.
Ouais.
Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est les conditions matérielles?
Non, y a deux, on leur a laissé 10 jours hein, pour répondre. Ouais. ce qu'on a quand même annoncé, nous, c'est qu'on partait du principe qu'on ne changeait pas. Oui. Parce qu'on était embarqué dans un timing. À l'époque, on pose la question, le décret n'est pas sorti, on est quand même le 20, on est le 23 juin, il reste 15 jours d'école. Nous, il faut qu'on organise les inscriptions au TAP, qu'on mobilise les associations, les animateurs, il faut organiser la rentrée. Donc on a pris le parti d'annoncer qu'on ne changerait pas, oui, mais qu'on posait la question sur l'idée de dire est-ce que quel est votre avis là-dessus. D'accord. Donc globalement, s'ils ne répondent pas, moi je considère qu'ils actent le fait qu'on ne change pas, et se sont vraiment positionnés ceux qui voulaient dire je ne veux pas qu'on change, et ceux qui voulaient dire je veux qu'on change. Pour les autres, c'était acté.
Oui, d'accord. Ça faussait, entre guillemets, dès le départ.
Mais le danger, c'était de se dire, on leur laisse complètement le choix, et de dire, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez nous dire qu'on va changer, ça sous-entendait que nous, on était capable
on
de
était
le faire.
On était prêt à changer au cas où.
Sauf qu'on n'était pas capable en si peu de temps.
Oui. Non, mais je comprends mieux le peu de participation. Parce que...
Mais en fait, revenir à 4 jours, il n'y a plus de taf. Non. C'est ce qu'on disait, donc c'est peut-être relativement facile aussi à mettre en place. C'est-à-dire les enfants, après c'est fini, hein. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. À 17h, les parents viennent, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi.
Alors, du point de vue de la
après,
mairie.
C'est le centre de loisirs, le mercredi.
Du point de vue de la mairie, ça peut paraître assez facile à organiser, effectivement, parce qu'on peut se dire, il n'y a plus d'étapes, etc. Il faut savoir qu'on a quand même des animateurs qui sont sous contrat avec un emploi du temps qui est annualisé, sur lequel il faut les revenir. Et ensuite, on s'est rendu compte avec Isabelle pendant le conseil d'école le vendredi soir à 20h, le mercredi soir à 20h. Que ben, les enseignants se sont posés la question, se sont projetés sur un planning à 4 jours, et qu'il y a une multitude de questions qui se posent aux écoles sur l'organisation de la journée, puisqu'il y a des activités périphériques qui sont proposées, il y a des temps de repos entre midi et 2 qui sont contraints, ne serait-ce que pour le temps d'organiser la cantine, qu'avant le matin, il y a des temps de garderie imposés qui doivent durer une heure. Il y a des aides personnalisées aux enfants qu'il faut positionner dans la journée. Donc il y a beaucoup de questions qui se sont posées aux enseignants, pas à nous, hein, mais aux enseignants. Et on voyait bien que le lundi soir, ils n'étaient pas matures pour dire ben, si on change, si on vote de changer tout de suite, parce que c'était le 3 au soir qu'il fallait le faire, on le fait dans quelles conditions?
C'était vraiment les déjetés. Hein. Moi, j'étais impressionnée. Ils échangeaient entre eux, mais c'est pas en l'espace de 5 minutes qu'on prend des décisions aussi lourdes que ça. Est-ce qu'on revient à 8h30? Est-ce qu'on reste à 9h? Les horaires? Ou est-ce qu'on va mettre les
PC?
La garderie, parce que même si c'est de la garderie, après, faire garder 170 enfants dans la cour de l'école, c'est pas simple. Donc, il faut déjà imaginer des activités, parce que c'est très... On va pas mettre tous les enfants comme ça... Donc c'était, mine de rien, c'est toute une réorganisation, quoi, et qu'on peut pas prendre, faire à la légère, comme ça.
Ce qui veut dire qu'on va se poser la question pour l'année prochaine, et qu'il faut être aussi vigilant sur les nouveaux contrats, ne pas s'embarquer dans des contrats qui seraient longs, et qui incluraient la saison prochaine, quoi. Si on se dit qu'on se donne en janvier, peut-être, ou je sais pas quand, de donner une réponse, ou déjà d'y réfléchir, de prévenir les parents, tu vois, dès janvier, dès le début d'année 2018, ouais. Je sais pas si c'est ça le timing, mais...
Bah, disons qu'il y a un timing où il faut prendre la décision.
Oui, voilà, c'est ça. Ne pas trop attendre.
Avec les enfants, mettons décembre, janvier, je sais pas. Et ensuite, ça nous laisse le temps de mettre en place, de planifier bien.
Voilà, parce que là, je sais qu'il va y avoir des recrutements et tout, d'être faire attention, de ne pas s'embarquer dans un truc. On sera obligé de garder les gens, quoi.
Ce qui sera aussi peut-être important, c'est qu'avec cette approche-là, les parents aient vraiment pour se déterminer l'ensemble des éléments du projet.
Oui, en plus.
Par exemple,
puis, une année de recul.
Ils découvraient en réunion que bah oui, s'il y avait plus de TAP qui était gratuite, la garderie, par contre, elle serait payée. Oui. J'ai pu subventionner. Mm-hmm. Ah bah, c'est des petites choses comme ça qu'ils n'avaient pas à tous. Voilà. En tout cas, ce qui est réconfortant quelque part, c'est savoir que les deux tiers des communes sont un peu comme nous et prennent un an pour réfléchir posément. Parce que, je trouve qu'on a eu une politique publique qui a été mise en place il y a 4 ans. Et Muriel a joué le jeu à fond. Hein, on a joué le jeu d'étape vraiment et allant jusqu'à la gratuité. C'est pas pour d'un trait de crayon, je dirais, réveiller et...
sur l'étape, et je pense que ça participe au fait aussi que les parents ne se sont pas positionnés plus que ça contre l'idée de changer. Enfin, pour l'idée de changer, c'est que on a interrogé les parents, comme on fait tous les ans à ce moment-là, sur on a questionné la satisfaction sur l'étape. Il y a 75% à l'école alimentaire, il y a un taux de satisfaction de 75% à l'école alimentaire et à plus de 90% à l'école maternelle. Ça veut dire qu'il y a aussi le fait qu'il y a des tables qui apportent quelque chose de satisfaisant et que ça participe au fait de dire ben, on restons à l'étage. Je pense qu'il y a peut-être des communes où il peut y avoir quelque chose d'un petit peu moins qualitatif, ce qui fait que ça, dans la balance aussi, je pense qu'on peut se dire bon, ben, entre l'école à 4 heures, de 4 à 5, ou les tables où il se passe à peu près rien, laissons les enfants à 4 heures, forcément ça joue aussi. Et puis rappelons aussi que pour des enfants qui sont nés en... on parlait de 2013, on parle de 2017. Je rappelle qu'au collège, les enfants ont école le mercredi matin. Donc pour les enfants qui sont nés en 2007, 2008, 2009, ils ont connu 2012, 4 jours. 2013, 4 jours et demi. Ils auraient pu connaître cette année, ils vont le connaître dans d'autres villages. 2017, 4 jours. Et ils connaîtront pour les 2009 qui, dans 2 ans, sont au collège, 4 jours et demi. Donc en 7 ans, ils font 4 changements. Donc, on voit bien qu'on a un problème sur l'objectif qu'on veut suivre. Hein.
C'est le préambule de leur nouvelle vie. Il va falloir être...
S'il n'y a pas d'autres tournées plus de sujet, on passe au dernier point d'information. Donc c'est pour le bar, donc la reprise du bar. Denis, tu veux dire un mot pour
vous? Oui, faire un point d'information sur le suivi de la procédure qu'on avait évoquée ici, en fait, hein, au moment du lancement de l'appel à candidature et la publication d'appel d'offres, donc, qui a été publié fin avril, mis sur le site. Donc les élus avaient défini en fait les objectifs qu'on cherchait à atteindre au travers de la reprise de ce commerce, hein, depuis la non-reconduction du bail auprès de l'occupant précédent. Le cahier des charges a été publié début mai, on a reçu 3 candidatures. Un groupe de travail a été constitué, donc composé d'Alain, Serge et moi-même, pour étudier ces candidatures. Donc, on a étudié les réponses de 3 groupes de projets, 3 porteurs de projets qui ont donc répondu en fonction de nos objectifs et de nos attentes. On a à la fois étudié les dossiers, puis reçu physiquement en fait, hein, les 3 groupes porteurs de projets, de façon à avoir des éclaircissements sur leurs dossiers, puis les rencontrer aussi, avoir ce contact humain. Qui compte aussi dans ce genre de sélection. Pour rappel, on avait publié nos critères de sélection portant à 40% sur les compétences et l'expérience des membres du groupe projet, à 20% sur la capacité du projet à répondre aux objectifs de la commune et à 40% sur le projet lui-même, son économie globale et son intégration dans la vie économique du village. Les 3 membres du groupe projet ont réussi à, sans aucune difficulté à l'unanimité en fait, à évaluer selon ces 3 critères les trois projets et arriver à une note globale qui classait les 3 projets de façon totalement non ambiguë. Mon compte rendu s'arrête là puisqu'ensuite les élus n'ont pas suivi en fait, la préconisation du groupe projet dans la sélection du repreneur du bar. Moi j'ai peu à dire sur la suite justement, par contre j'ai beaucoup à questionner puisque ce qui m'intéresse c'est que pour maintenir notre engagement en matière de transparence, en particulier sur lequel on était engagé sur ce processus de sélection, il convient maintenant d'être tout à fait transparent vis-à-vis du public sur les critères qui ont été effectivement retenus, communiqués aux candidats de façon à ce qu'ils puissent éventuellement reconstruire une proposition ou une offre en fonction de ces critères. En plus des critères mis sur la pondération, on doit être identifié. Il faudrait savoir sur quelle pièce, quel document, quelle information en fait l'évaluation a été conduite, par qui, le résultat de cette évaluation bien sûr, et puis enfin décrire complètement le processus de décision qui a conduit à sélectionner un candidat parmi les autres. Je crois que nous nous sommes engagés, nous devons cette transparence à l'ensemble de la population. C'est moins sur le fond, tout peut discuter bien sûr, que sur la forme, puisque c'était un engagement de notre part, et que le sujet mérite bien sûr d'être le plus public possible.
Je tiens juste à préciser que moi je m'associe à l'intervention de Denis sur ce sujet.
Qui veut prendre la parole?
Moi, je veux simplement dire juste un truc, une chose, c'est que tu as parlé de critères qualitatifs, effectivement, il n'y avait pas de souci sur le cahier des charges, on était tous d'accord, mais il y avait des invariants. Là, tu n'en as pas parlé, les critères qualitatifs, l'expérience, etc. Mais en réunion MNA ensemble, et on l'avait bien mentionné sur le cahier des charges, il y avait deux invariants, il y avait une licence 4. Il fallait que les personnes qui présentaient leur dossier s'engagent à acheter, à avoir une licence 4. Parce que tout simplement, on voulait un bar avec une restauration saine, circuit court, il n'y avait pas de souci, mais il y avait ces deux éléments-là, une licence 4, bar. Et dans les trois dossiers que vous nous avez présentés, eh ben, il n'y avait qu'un dossier où la personne s'engageait à acheter une licence 4. Les deux autres dossiers, ben, ou alors c'est comme ça, Serge, que tu nous l'as présenté avec Alain.
Une deuxième réunion.
Puisque, attends deux minutes, puisque Denis n'était pas là pour présenter le dossier, mais c'était toi et Alain. Et on nous a clairement dit, ben, le premier dossier, licence 3. Troisième dossier, licence 3, pas de souci. Et deuxième dossier, ben, c'était écrit noir sur blanc, s'engage à acquérir une licence 4. C'est tout. Moi, je trouve qu'on a, à ce moment-là, on a tenu ce qu'on avait mis dans notre cahier des charges. Voilà, je ne dirai plus rien d'autre.
Moi, je tiens à dire une chose, c'est que je n'ai pas des lieux de travail, je ne participerai pas à ce débat, parce que j'estime que ce lieu de travail a examiné ça pour le compte du Conseil des élus, qu'il a rendu compte devant les élus, que les élus ont décidé, et que la décision, elle appartient aux élus.
Je ne remets pas ça en cause, par contre, j'ai oublié de préciser, effectivement, le groupe de travail n'avait pas pour mission de décider. Il avait pour mission de proposer ce qu'il a fait. Important. Ma question porte sur la transparence du processus de décision, des critères et des évaluations, c'est tout.
Oui, ça c'est important.
On est bien d'accord en question, il n'y a aucune ambiguïté.
Je crois que là-dessus, on a tenu ce qu'on avait dit dans notre engagement. Il y avait un groupe de travail qui travaillait sur le côté technique. Et je crois.
Les élus, à l'unanimité des présents lors des réunions auxquelles Denis, tu étais absent, avaient très clairement dit et rappelé que s'agissait d'un projet de bar avec une activité de restauration ouverte, mais d'un bar. On ne va pas revenir pour nous sur l'importance partagée, enfin d'autres pourront peut-être le dire, d'avoir un bar dans la commune, parce que ce n'est pas le même genre d'animation et de rencontre et de rôle que joue un bar par rapport à autre chose dans ce village. Et voilà, c'était un critère qui n'était pas un critère comme un autre dans la pondération. C'était, comme l'a dit Laurence, un invariant. Laurent ? Non, c'est qui ?
Non, justement, pour rassurer Denis là-dessus, effectivement. Bon, moi j'ai suivi ça de loin, mais je crois que la méthode a été rappelée. Effectivement, c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on avait une méthode et que la décision finale revenait au groupe à l'ensemble du groupe. Le groupe de travail a parfaitement joué son rôle, il a rendu son compte-rendu. Moi qui ne connaissais pas, je l'ai lu et ça m'a totalement éclairé, ça m'a apporté énormément d'éléments. Et puis on a eu accès au dossier, en complément, parce qu'il y avait peut-être des éléments qu'il fallait aller chercher un petit peu plus loin. Donc on a eu toute l'information dont on avait besoin pour prendre une décision totalement mesurée et rationnelle, hein, chacun, voilà. Et puis on a fait un vote en bulletin secret, ça c'est moi qui l'ai demandé, parce que voilà, pour éviter, parce qu'on n'avait pas forcément la même vision des choses, c'était normal en équipe, hein, sur cet aspect-là. Et je crois que le vote a été très clair, heureusement, à la limite aujourd'hui, parce que ça nous met à l'aise vis-à-vis de tout le monde, de la population, etc. Voilà, la décision doit sortir du groupe comme c'était prévu, et puis elle sortira. Mais on avait tous les éléments, je te rassure, Denis. Rien n'a été laissé au hasard.
Ce que je veux, c'est que ce soit public, c'est tout. Quels éléments, quels critères, quelle évaluation,
ben, tout ce qu'il y avait dans le dossier que vous nous aviez rapporté.
Avec quel rendu?
Avec quel rendu?
Et dans le dossier de consultation, il y avait cette contrainte?
Oui,
oui, oui. Le cahier des charges. Oui.
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter, reprendre. Il faut que tu me dises officiellement qui était retenu. Oui, alors donc quand même, peut-être.
Oui.
Annoncé
tant qu'à faire.
Officiellement. Donc c'est un groupe de trois personnes emmené par M. Bertalotto, associé. Excusez-moi, j'ai pas
retrouvé.
Tortosa, donc cuisinier associé, et Pablo Moya, qui s'est associé aussi au projet et qui viendra, je crois, les week-ends s'associer aux deux premières personnes qui seront là à la semaine. Et donc, peut-être pour expliquer aussi le calendrier, là, on doit recevoir tout prochainement. Je pense que maintenant, c'est vrai que c'est une procédure qui dure depuis longtemps, parce qu'il y a eu toute une étape longue, c'est vrai, avec l'ancien occupant. Maintenant, il y a un gros travail à mener avec la nouveau, les porteurs de projets retenus pour établir un contrat, un bail avec eux, un contrat qui nous permette aussi de nous assurer que justement les engagements qu'on attend d'eux soient tenus. Et puis pour surtout réfléchir avec eux à l'aménagement de ce local, sachant qu'il y a un gros travail de réfection et de remise aux normes à faire, puisqu'il est dans un état de pourrissement, je veux dire comme ça, de délabrement très avancé. Alors on le fera à la mesure de quelques années, hein, parce que vous savez qu'on explore un projet de refondre le cœur de village. Donc, mais quand même, il est nécessaire qu'ils puissent travailler et pratiquer leur activité en bonnes conditions. Donc là, c'est un travail qu'on va engager, je crois, que très rapidement, hein, s'il y a des réunions très prochainement, pour,
demain.
Et demain, pour attaquer ça.
Juste une question pour le bail.
Alors après, l'ouverture, voilà, juste pour finir, excusez-moi. Il y a le temps, parce que donc, il faut l'acquisition de la licence 4, donc on va voir avec eux. C'est pas forcément quelque chose qui se fait à la minute, il faut peut-être un petit temps quand même pour l'acquérir. Et puis tout le travail, tout le laps de temps nécessaire pour aménager les locaux, puis pour qu'eux-mêmes continuent à avancer leur projet. Donc je ne sais pas si on est mesure encore d'annoncer un calendrier vraiment. On le saura plus à l'issue des premières réunions, le plus tôt possible, c'est sûr, mais à l'issue des premières réunions.
Il y a à la fois des travaux qui vont prendre du temps, un certain temps, pour remettre aux normes le bâtiment, et puis il y a des travaux d'aménagement que vont faire les porteurs de projet aussi pour aménager leur local. Donc il faudrait coordonner tout ça pour que ça soit dans le délai le plus bref possible, pour que ça ouvre le plus tôt possible. Donc on n'est pas aujourd'hui à même de donner, si ce sera le 1er septembre, le 1er octobre, le 1er novembre, on va voir ça avec eux, on discute avec eux.
Pour le bail, est-ce que c'est un bail précaire ou c'est un bail 3-6-9 normal?
C'était mis dans le cahier des charges, il y a un premier bail dit précaire de 2 années, c'est la seule solution qu'on avait pour pouvoir... nous garantir que le projet qui sera mis en œuvre corresponde effectivement à ce qui a été accepté avant d'enchaîner sur un bail commercial de notre année. Quoi.
C'est 2 années maximum.
Ouais.
Non, je pense que là, moi, pour revenir là-dessus, la seule chose qu'on peut, je pense, acter, et on est d'accord, et c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement interne, notamment dans nos... Alors je dis « on », parce qu'on est tous, je pense, là-dessus, c'est pas seulement ceux qui ont travaillé, mais où on n'a pas été bons, et c'est un peu sans excuser auprès des candidats, c'est sur les délais. Je pense que ça a mis beaucoup plus de temps que prévu, qu'on a tardé à donner des réponses, et je pense que ça a pas aidé, ça nous aide pas aujourd'hui, on voit bien dans les temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand ça va se représenter, où ça va nous servir de leçon, en fait, pour retravailler un peu sur ce dysfonctionnement, sur les dysfonctionnements qu'on a constatés, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi l'ancien... Bon, ça a été plus long que prévu par rapport à l'ancien propriétaire aussi.
Tu parles de quel délai exactement?
Enfin, occupant, quoi.
Tu parles de quel délai exactement?
Je pense qu'on n'a pas respecté des délais par rapport, certainement... Alors, les délais par rapport au temps de remise des dossiers. Ensuite, je pense qu'on s'était engagé sur un temps de réponse qui a tardé. C'est pour ça que nous, on est revenu dessus en disant « Mais il faut absolument, à un moment... » Enfin, il me semble...
Il n'y avait aucun engagement de notre part. Il y avait par contre une exigence de la part des candidats pour la réponse.
Ouais, ok.
Clôture du cahier des charges, de l'appel à candidature le 5 mai, étude des dossiers, rencontre des candidats le 31 mai, présentation de la conclusion du groupe de travail 1er juin, décision le 20.
Il me semblait que ça avait été bon. Peut-être que ça remontait plus haut que ça.
Le travail rentre, on en fait son rendu au moment où les élus décident.
Ouais, il me semble pas.
Il me semble, Denis, si je peux permettre, que 2 mois pour prendre une décision, on a fait 23 ça pour vous. Au candidat de proposer une candidature, 2 mois c'est long quand même pour donner.
C'est pour ça que je reprécisais le calendrier exact, puisqu'en fait c'est pas 2 mois. Hein, donc on a en gros 20-25 jours pour l'étude des dossiers, des éléments comptables, aussi complets, hein, qu'on a étudié tous les trois en totalité. Donc le temps de s'y mettre et d'avoir ensuite une opinion sur ces éléments-là, plus l'entretien avec eux. Ensuite, ce que vient de rappeler Serge, c'est que 3 semaines suivantes, elles sont effectivement un dysfonctionnement, mais moi j'avais aucune capacité à décider, ça n'était pas de mon ressort, donc je ne pouvais rien répondre et je ne pouvais pas répondre et pas aller plus vite. Je partage, ça aurait pu aller plus vite, c'est notre capacité à décider qui a ajouté ce délai.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Et le conseil est clos.